ouvre la séance de questions-réponses. Permettez que j'aille d'abord à Goma pour deux questions et on revient à Kinshasa. Goma, vous avez la parole. Deux questions.
Oui, prenez le micro qui est devant vous.
Merci bien. Je suis Saoui Baeni de Hope Channel Télévision. Ma question s'adresse au porte de parole Aïe de la Monisco. Il y a déjà les sites soudanais qui ont déjà lancé depuis hier 7 jours de fin des grèves. Et par rapport à ces points, ne craignez-vous pas qu'après l'expiration de ces délais, que ces sites soudanais puissent entamer des actions non citoyennes, mais aussi qu'ils puissent mettre dans des mauvais états la population de Nyiragongo?
Oui, merci pour la question. Alors, pour les deux groupes des ex-combattants sud-soudanais, soit ici à Monigui, près de Goma, ou bien à Dungu, dans les deux camps, ces ex-combattants-là sont contenus, sécurisés et gardés par les forces de la MONUSCO. Je ne sais pas, même après cette grève va finir, ils sont toujours là, ils sont bien gardés et ils ne sont pas dangereux pour la population civile. Merci beaucoup.
Deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Président.
Merci beaucoup, Théophane, pour la question. Elle va tout droit au responsable de l'UNICEF. Vous avez 70 ans en République démocratique du Congo et vous êtes au pays depuis 1963. Quel bilan faites-vous de votre présence au pays et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Alors, je vais répondre brièvement au nom de l'UNICEF. Je crois qu'ils ont déjà eu l'occasion de venir faire un bilan ici. Ce qui a marché, ce que vous savez, les choses dans lesquelles on a vu le plus de progrès, c'est notamment l'accès à l'école pour les jeunes enfants, que ce soit les garçons ou les filles, et puis aussi les couvertures de vaccination pour les enfants. Ce sont vraiment les deux domaines dans lesquels on peut enregistrer des succès. Et il y a aussi le programme des écoles et des villages assainis de l'UNICEF, qui sont aussi des programmes qui apportent des bonnes pratiques dans les villages et dans les écoles dans lesquelles ils sont mis en œuvre et qui permettent de réduire les taux de maladie et de mortalité. Donc, mais le taux de fréquentation des écoles pour les jeunes enfants reste, à mon avis, l'un des points forts de la présence de l'UNICEF. Mais évidemment, aux côtés du gouvernement congolais, il y a encore beaucoup à faire, notamment pour protéger les droits de l'enfant.
Merci. Nous revenons donc à Kinshasa pour prendre deux questions. Je prendrai une question à ma droite et une question à ma gauche. À ma droite, donnez au monsieur qui est au fond.
Qui est au fond. La parole, Théodore Ngandou au compte de Télé7. Ma question s'adresse à José Maria Aranaz. Vous êtes en RDC depuis plusieurs années. Chaque mois, vous publiez le rapport sur la situation des droits de l'homme, mais vous n'avez jamais suggéré de sanctions au Conseil de sécurité sur la RDC. Mais subitement, c'est l'Union européenne et Washington qui n'ont jamais publié un rapport sur la situation des droits de l'homme dans notre pays qui sanctionne aujourd'hui certains responsables de sécurité de notre pays. Comment vous, BCNUDH, réagissez-vous à ces sanctions?
À vous.
Merci beaucoup pour la question. Oui, tout à fait. Les BCNUDH, le commissaire des droits de l'homme, n'ont pas le pouvoir de dicter les sanctions. Comme vous avez bien évoqué, les sanctions viennent des pays ou des autres organisations qui ont le pouvoir pour les faire. Le Conseil de sécurité peut aussi dicter des sanctions si on estime que ça sera opportun, mais ça ne dépend pas de nous. En tout cas, nous sommes prêt à collaborer avec les autorités pour améliorer la situation des droits de l'homme dans les pays et aussi pour traduire en justice les responsables des violations graves des droits de l'homme. La question des sanctions, comme j'ai dit, ça ne dépend pas de nous. Je pense qu'il y a une réponse du côté des autorités, surtout dans la question de pour ouvrir l'espace démocratique et aussi pour la question de la lutte contre l'impunité pour les responsables des violations graves des droits de l'homme qui ont été commis par exemple à septembre de cette année ou à janvier de l'année passée. Je pense que ça va contribuer beaucoup. Nous sommes prêts à appuyer les efforts des autorités et je vais réitérer aussi la proposition du secrétaire général adjoint à Andrew Gilmour qui a fait aux autorités. Nous sommes prêts à aider à conduire une enquête crédible et transparente sur les derniers événements de septembre qui a laissé au moins 49 civils et 4 policiers assassinés dans les rues de Kinshasa.
Merci. La deuxième question, j'avais promis à ma gauche.
Il n'y a pas de micro
de ce côté? Oui. Donnez à madame, s'il vous plaît. Vous aurez la possibilité de poser la question plus tard. Allez-y.
Nénette Fomba, du journal Opinion. Une question pour le capitaine. Capitaine, après les massacres de villageois à l'est de la RDC par de rebelles qui s'enfuient, qu'est-ce qui vous met sur la piste pour savoir qu'il s'agit des ADF, FDLR, LRA ou Maïmaï? Laisse-t-il des écrits?
Capitaine, vous avez entendu la question. La réponse, s'il vous plaît.
Oui, merci pour la question. Alors, pour ça, on a beaucoup d'éléments. Soit par des services de renseignement, soit par des éléments sur place qui nous fournissent des informations, soit par des drones qui survolent toute la région, et bien sûr avec les patrouilles robustes qu'on a sur le terrain. Tous ces éléments-là contribuent pour avoir bien sûr des pistes et pour traquer et bien sûr pour appréhender ces éléments. Merci beaucoup.
Ok, nous restons à Goma pour prendre deux questions.
Le micro.
Merci beaucoup, c'est Maurice Nubo de l'Initiative Civile. Ma question s'adresse à Maria Aranaz. Le 19 décembre, c'est pour bientôt, l'analyse prochaine. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour encadrer la population afin qu'il n'y ait pas de violence? Parce que nous savons que prévenir, c'est guérir.
Oui, monsieur Ozé. À vous.
Oui, merci beaucoup. Je peux parler sûrement dans les côtés des droits de l'homme, mais je partage avec vous la préoccupation de la date 19 septembre et la possibilité de décembre, pardon, et la possibilité de violence soit du côté des agents étatiques ou soit des manifestants. Nous savons toute notre équipe est prête pour documenter qui sont les auteurs de la violence et pour les dénoncer. Nous avons renforcé notre présence surtout à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Et comme j'ai dit, on a rappelé à bon conduit par rapport des agents étatiques, mais aussi des manifestants de la population. Et nous sommes prêts à documenter la violence, soit du côté qui soit.
Nous restons à Goma pour la deuxième question.
Oui, juste dans le micro.
Je suis Ezaï Kungu de la radio Saoudi-Adjili. Mon capitaine a parlé des drones qui survolent l'espace aérien du Nord Kivu. Et ces drones, je voulais savoir s'ils ne sont pas capables de vous donner des moyens de prévenir des violences comme par exemple des massacres.
Merci pour la question. Bah, effectivement, c'est ça le rôle des drones. C'est de collecter des informations, des renseignements, afin de prévenir, je ne sais pas, des attaques ou bien des incidents. Mais ce n'est pas toujours évident, sachant que le territoire est très vaste, et bien sûr, avec la forêt qui est très dense, qui empêche parfois d'avoir des informations qui sont précises. Merci beaucoup.
Nous revenons donc à Kinshasa. Comme promis, je vous avais promis la parole. Donnez le micro ici. Ben, ceux qui sont à l'arrière, manifestez-vous, hein, parce que je ne vois pas l'arrière.
Merci beaucoup.
Posez votre question.
Isaac Nguenzapo, compte Congo Opportunities Media. Je pose ma question à Florence. Vous avez présenté l'appui de la MONUSCO par rapport à la révision du fichier électoral. Je voudrais savoir si on peut évaluer cet appui qui consiste à transporter les matériels électoraux dans toute l'étendue du pays. Ça peut être évalué à combien de dollars par rapport au budget présenté par la CENI. Merci.
Alors, pour l'instant, donc, les opérations de révision du fichier électoral sont essentiellement financées par les fonds propres de la MONUSCO. Ça consiste essentiellement le poste le plus important, c'est la location des avions cargo, les Ilyushin, les C-130 et les hélicoptères qui constituent le poste budgétaire le plus important. Mais pour l'instant, c'est essentiellement dans le cadre du budget actuel de la MONUSCO. D'autres chiffres seront disponibles, mais un petit peu plus tard.
Ok. Apparemment, il semble qu'il y a une personne à l'arrière qui demande la parole. Je ne vois pas bien. Le micro, s'il vous plaît. Non, je parlais de derrière moi, s'il vous plaît. Ok. La prochaine fois. Posez, donnez le micro. Oui.
Merci. Charles Kipingani pour le compte de Gouvernance Plus. Gouvernance Plus, magazine du Congo central, basé à Matadi. J'aimerais poser cette question à la MONUSCO. Vous avez soutenu un dialogue dont les conclusions n'ont pas été à la satisfaction de toute la classe politique congolaise. Aujourd'hui, ce sont les bons offices de la CENCO desquels on attend une conclusion. Alors que le rassemblement tient mordicus à ce que Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre. Est-ce que la MONUSCO peut être prête à nous proposer encore des bons offices au cas où Kabila ne partait pas et que cela ne satisfaisait pas le rassemblement comme il le prétend. Merci.
Nous pensons aux Nations Unies que les négociations en cours, les discussions en cours facilitées par la CENCO au centre diocésain pourront porter des fruits et que l'ensemble des acteurs au niveau politique pourront trouver un consensus qui va nous sortir de l'impasse dans lequel nous sommes. Pour la MONUSCO, vous savez que les discussions que nous soutenons, nous l'avons toujours fait par le passé, que ce soit la facilitation menée par l'Union africaine en la personne du représentant par Monsieur Edem Kodjo. Nous avons toujours dit que c'est le dialogue qui doit prévaloir. Nous devons discuter et en dehors du dialogue, il n'y a pas d'autres issues. Donc nous pensons que nous espérons qu'à l'issue des négociations qui sont en cours au centre diocésain, il y aura un accord qui va nous éviter de faire ce que nous sommes en train de faire des hypothèses, si ceci ne se fait pas, etc. Donc nous avons foi et nous espérons que des solutions pourront sortir de ce dialogue en cours avec la CENCO. C'est la deuxième question de Kinshasa. Je pars à Goma pour deux questions.
Donnez le micro derrière.
Merci beaucoup. Je suis Jackson Mutima pour le compte de la RTNC Nord Kivu. Après, je voulais demander, le gouvernement congolais a considéré les sanctions contre quelques membres des sécurités de la RDC d'inopportunes. Il mérite voir quelle est la lecture de la MONUSCO par rapport à cette manière de voir les choses du gouvernement congolais à l'aube de la date fatidique du 19 décembre dans notre pays.
Il faudrait dire que, en fait, la décision qui a été prise, c'est une décision souveraine de l'Union européenne et des États-Unis. Et en tant que telle, nous, aux Nations Unies, nous n'avons pas de commentaires particuliers. Nous prenons acte que cette décision a été prise, que des sanctions ont été prises contre des citoyens congolais, autant pour moi. Et ces sanctions concernent des personnes par rapport à des critères déterminés par l'Union européenne et les États-Unis, des critères bien précis que nous nous réservons de ne pas commenter parce que c'est des critères propres à ces pays, à cette structure, à l'Union européenne et puis aux États-Unis. Donc, pour nous, les Nations Unies, nous pensons toujours que ce qu'il faut, c'est dialoguer pour déboucher sur une solution acceptable par tous les Congolais qui nous ferait sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Deuxième question, s'il vous plaît, à Goma.
Merci, je suis Victor Mouloadio de la radio GQFM Goma. Ma question est adressée au capitaine Yassine par rapport à la présence des rebelles, des ex-rebelles sud-soudanais dans les territoires de Nyiragongo. Ils ont estimé leur fait de vouloir retourner chez eux après que le gouvernement aussi ait suggéré à la MONUSCO de les rapatrier chez eux. Et pourquoi la MONUSCO continue à camper sur sa décision et ou pourquoi la MONUSCO continue à faire semblant comme si rien n'était par rapport au retour de ces ex-rebelles sud-soudanais dans leur pays d'origine. Merci.
Oui, merci pour votre question. Alors d'abord, c'était le logement, bien le campement de ces rebelles, ou bien ces ex-combattants, c'était sur la demande des autorités congolaises. Alors pour le moment, je parle du côté militaire. Pour nous, on a cette mission de bien de contourner, de sécuriser, de garder ces éléments-là. Question de décision ou bien de historique, quand ils vont être rapatriés chez eux, ça ne me relève pas de mes fonctions. Merci.
Ok. La personne qui devait avoir la parole, oui.
C'est M. Jean-Marie Kenge, journal Lumière d'Afrique. Et je m'adresse à M. José Maria, parce qu'il y a deux fois, quand on est ici, ils donnent des chiffres pour les cas de violation des droits de l'homme. Et je ne sais pas si ces cas sont seulement les cas de l'Est ou dans toute l'étendue de la République. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a deux fois, les couloirs, ce sont des rebelles. Les braconniers, parce qu'ils tuent, les braconniers dans la forêt de l'Équateur, ce sont des rebelles. Là, on tue. Est-ce que vous avez des informations, les chiffres exacts, les chiffres que vous donnez, ce sont les chiffres de l'Est ou dans toute l'étendue de la République?
Merci beaucoup pour la question. Oui, non, la chiffre qu'on partage avec vous sont les chiffres pour tous les pays. Et on fait les distinctions entre les provinces en conflit à l'Est et aussi dans le reste du pays. Mais il faut dire que sont les chiffres de violation des droits de l'homme qui ont été documentés et vérifiés par notre bureau. Ça veut dire probablement la chiffre est plus élevée que ça.
Merci pour cette réponse. La deuxième question à Kinshasa, oui, allez-y.
Bonjour, hello.
Oui, allez-y.
Je m'appelle John Aglimby, je suis journaliste de The Financial Times, journal anglais. Je voudrais demander sur les préparations pour le 19. Il y a combien de soldats MONUSCO à Kinshasa? Il y a combien de soldats MONUSCO à Lubumbashi est qu'est-ce que c'est le rôle des soldats et les polices MONUSCO? S'il y a une grande violence, qu'est-ce que vous faites? Si le public demande, vous devez intervenir. Est-ce que vous pouvez intervenir? Peut-être vous pouvez expliquer à nous le rôle MONUSCO le 19 décembre s'il y a une grande violence. Merci beaucoup.
Oui, j'ai compris votre question. Votre question est très précise. Au niveau de la MONUSCO et des Nations Unies dans son ensemble, nous avons préparé ce qu'on appelle un plan de contingence. Et ce plan de contingence, si vous préférez, c'est un plan de protection approprié en cas de détérioration de la situation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en termes clairs, nous avons renforcé notre présence à Kinshasa et, comme le disait le représentant des droits de l'homme, et aussi dans d'autres localités comme Lubumbashi, comme Goma, etc., etc. Cela, nous avons aussi renforcé les patrouilles, que ce soit journalières ou des patrouilles journalières, que ce soit de nuit comme de jour. Nous avons renforcé notre capacité de surveillance. Nous avons aussi des équipes mobiles d'évaluation, de suivi, pour voir un peu comment la situation évolue. Et en cas de nécessité, nous sommes prêts, nous ne sommes pas surpris, nous sommes prêts à intervenir. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, appuyé la PNC, la police nationale congolaise, de façon à les aguerrir, à leur donner des éléments d'information, les sensibiliser sur comment faire une gestion démocratique des foules, ce qui implique qu'il faut un respect scrupuleux des droits de l'homme et une utilisation non excessive de la force. Et puis, bien sûr, nous recommandons la non-utilisation d'armes létales. Donc, c'est grosso modo ce que nous faisons. Ce que le plan de contingence et le contenu de notre plan de contingence, tout en se disant, nous espérons que nous n'allons pas devoir étaler ou mettre en œuvre ce plan s'il y a un consensus et que tout se passe bien et qu'il y a la paix et qu'il n'y a pas de violence et de dérapage. Je ne pourrais pas vous donner avec certitude le chiffre exact, mais nous savons que nous sommes passés de 2 compagnies à 4 compagnies. Vous pourrez faire une évaluation par vous-même. Vous n'imaginez pas le chiffre exact. Je ne sais pas si Aranaz a un complément d'information par rapport à cette question.
Je n'ai pas la chiffre, mais je sais qu'il y a des soldats, il y a aussi les UNPOL, la police des Nations Unies, il y a aussi la présence renforcée de ce que l'on appelle les FPU, qui sont les policiers armés des Nations Unies. Et la présence ici à Kinshasa a été renforcée, mais je n'ai pas la chiffre concrète. Aussi, les équipes des droits de l'homme et les équipes politiques ont été renforcées pour les 19 à Goma, à Lubumbashi et surtout à Kinshasa. Si je peux faire une petite précision, parce que je pense que j'ai manqué la question des braconniers ou les coulounes à la réponse antérieure. J'ai dit que les violations des droits de l'homme qui ont présence de tous les territoires de la RDC, mais quand on parle des coulounes, des braconniers, ce ne sont pas les violations des droits de l'homme, ce sont les crimes communs et il faut les juger avec le système de justice et normal. Merci.
Voilà, nous allons partir à Goma prendre une question et nous reviendrons à Kinshasa prendre une question et ça sera la fin de la conférence. À Goma, s'il vous plaît, une question.
Est-ce qu'on vous a donné la parole, monsieur Samy? Allez-y quand même.
Ah, merci. S'il vous plaît, assez rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps.
C'est Samy Chamamba, du journal Congo 26. Ma question est celle-ci. C'est par rapport à l'apport de la MONUSCO. Mais certaines langues se disent, hier nous étions sur le terrain pour voir un peu la capture par rapport aux travaux de la CENI. Mais il y a trop de lenteur, ça prend entre 5 à 10 minutes. Alors que nous connaissons que la MONUSCO, ils ont l'expertise et l'expérience. Avez-vous songé aussi à apporter votre expertise pour augmenter notre poste? Parce qu'à Goma, nous avons 19 quartiers, 2 communes. Vaste peuple, on ne sait pas si ça prendrait les temps. C'est pourquoi nous avons voulu savoir si vous y songez aussi à apporter votre apport là-dessus. Merci.
Oui, merci. Comme nous l'avons précisé, donc les Nations Unies sont un partenaire de la CENI et nous intervenons donc pour faciliter le déploiement du matériel électoral. Et nous déployons le matériel électoral au fur et à mesure où la CENI nous donne le matériel électoral à déployer. Donc voilà, donc pour l'instant, nous avons déployé tout ce que la CENI nous a demandé de déployer et nous continuons de le faire tous les jours. On a des vols entre Kinshasa, Lubumbashi et les provinces. Voilà. Mais notre rythme est celui que nous donne la CENI.
Merci Florence. Nous allons prendre une dernière question ici. Si possible, une personne qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. Je vois une main insistante ici. Oui.
Bonjour, Claire Ménial du magazine Le Point. Vous nous avez expliqué qu'il y avait un renforcement du déploiement dans les principales villes. Ma question est, l'idée est d'encadrer les violations aux droits de l'homme, de les limiter, etc. Mais si vous les constatez, quelle est la marge de manœuvre des forces de la MONUSCO? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire si vous constatez une violation des droits de l'homme perpétrée par des forces de l'ordre à l'encontre de civils? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire concrètement?
Je pense que c'est une question plus pour les forces, pour les porte-parole, mais je pense que les mandats de protection des civils et dans le contexte même des élections étaient mentionnés par le Conseil de sécurité. Et je pense que la présence renforcée de la force et de la police des Nations Unies, c'est précisément pour éviter ça et pour contribuer à protéger d'une meilleure manière à la population en général dans ce type de contexte. Même si on a dit beaucoup de fois que nous ne pouvons protéger chaque citoyen de Kinshasa, chaque citoyen de Lubumbashi. Ici à Kinshasa, il y a 12 millions de habitants. La présence que nous avons à l'Ouest, c'est très limité. Mais peut-être que j'ai pris la place du porte-parole.
Non, je crois que vous avez dit l'essentiel, parce que notre rôle aussi, c'est de pouvoir documenter pour ne pas donner des chiffres un peu qui ne sont pas contrôlés. Et notre action, c'est de pouvoir justement faire cette documentation-là d'une manière très technique, très, très scientifique. Et c'est ce que Aranaz, les droits de l'homme, vient de vous dire. Bien entendu, en cas de nécessité, nous pouvons toujours, nous avons eu à le faire par le passé, par exemple, demander avec insistance, sensibiliser l'APNC, par exemple, à ce que l'usage proportionné par rapport à l'action qui est en cours puisse se dérouler normalement. Donc c'est voilà. Prenez le micro, sinon on ne vous entend pas. Prenez le micro parce que il n'y a pas que ici, il y a les autres aussi, il y a Goma qui vous suit aussi.
Non, ma question, est-ce que les forces peuvent engager une action en cas de violation manifeste, quoi?
Non, cela, vous savez que nous réagissons par rapport à un mandat qui est bien défini, qui est la protection des civils, et c'est le Conseil de sécurité qui est habilité à nous donner avec certitude, avec clarté, des actions à donner. Donc, pour l'instant, ici, je ne peux pas vous dire... Voici, en cas de dérapage, ce que nous allons faire, parce que nous tenons notre mandat du Conseil de sécurité, et c'est le Conseil de sécurité qui nous donne les directives à suivre. Voilà qui met fin à cette conférence de presse. Je vous remercie. À la semaine prochaine.